Les Imaginales, c'est un salon où on a la chance, année après année, de retrouver les mêmes auteurs, de faire connaissance avec eux et puis de les revoir régulièrement. Et puis, c'est aussi l'occasion de faire des découvertes et de rencontrer de jeunes auteurs, de nouveaux auteurs, des auteurs qui ne sont pas encore venus et qu'on va découvrir parfois. Et je dois dire que je suis quand même, malgré ma place un peu privilégiée, mais avant tout un lecteur également. Et donc, c'est aussi l'occasion de faire des découvertes. Et je suis vraiment ravi de partager avec vous une des découvertes de cette année, qui est Leandro Ávalos Blacha. Et on va parler donc de lui, mais aussi des deux livres qui sont pour le moment disponibles en France. Et vous allez voir qu'on va rentrer dans un univers très particulier. Et vous voyez ce garçon qui a l'air très sage comme ça, qui a l'air très timide, et qui l'est sans doute, mais quand il écrit, il devient vraiment quelqu'un d'autre. Et là, ça prend une dimension tout à fait différente. Vous êtes d'accord avec moi quand je dis ça?
Sí, seguramente sí, siempre me dicen lo mismo y la impresión es siempre esa de una imagen de seriedad y algo que no tiene nada que ver con lo que escribo.
Oui, on me fait souvent la réflexion de que j'ai l'air très très sage et sérieux et qu'en effet ça n'a rien à voir avec ce que j'écris.
Alors, moi, j'aimerais en savoir d'abord un petit peu plus sur vous. D'où venez-vous? Qui êtes-vous, Leandro Ávalos Blacha?
Nací en la ciudad de Buenos Aires, que, las afueras de Buenos Aires, que se llama Quilmes.
Donc, je suis né à Quilmes, qui est une ville dans les dehors, les alentours de Buenos Aires.
Que creo que es el espacio que está más presente en los dos libros, en estos dos libros.
Et je crois que c'est l'espace qui se trouve le plus présent dans les deux livres.
Estudié littérature en l'université et estudié muchos años también un curso de escritura, un taller de escritura.
Donc j'ai fait des études de littérature à l'université et j'ai aussi pratiqué l'écriture dans des ateliers d'écriture pendant des années.
Con un escritor que se llama Alberto Laiseca.
Avec un écrivain qui s'appelle Alberto Laiseca.
Que está traducido en el año pasado se tradujo por primera vez al francés una novela breve que se llama Les Aventures d'un romancier atonal.
Donc il a été traduit l'année dernière, il s'agit de nouvelles et donc vous avez eu le titre en français.
Que es un escritor en Argentina muy importante. La novela esa la recomiendo mucho si a alguien le interesa leerla. La publicó una editorial chica que se llama Attila.
Donc c'est une petite maison d'édition, Attila, qui l'a publié. Et c'est un écrivain qui est très important en Argentine et vraiment je vous le recommande.
Y también creo que lo que escribo tiene mucha sintonía con la obra de Alberto Laiseca en particular.
Et je pense que dans ce que j'écris, il y a beaucoup d'échos de l'œuvre de cet écrivain.
Il y a quand même un événement clé, on va dire, j'imagine, qu'on retrouve forcément dans ces deux livres que nous avons lus, nous pour l'instant, ou que nous pouvons lire en ce moment en France. C'est ce qui s'est passé au début de ce nouveau siècle, avec cette crise économique qui a frappé l'Argentine et qui l'a, on va dire, dévastée, ravagée. Avant qu'on parle vraiment des livres eux-mêmes, est-ce que vous pensez que sans cette crise, vous auriez écrit quelque chose de différent?
Creo que la crisis, aun con lo peor que produjo, realmente en muchos aspectos generó un cambio super positivo en lo social y en lo cultural muy fuertemente.
Je crois que cette crise, avec tout ce qu'elle a produit, elle a eu des effets très positifs du point de vue social et culturel.
Muchísima importancia tiene sobre todo en Massachusetts que bueno, la escribí muy con los ecos de lo que estaba pasando en ese momento.
Cela a beaucoup d'importance en Massachusetts, où il y a vraiment beaucoup d'échos de ce qui était en train de se passer à ce moment-là.
pero marcó también un cambio muy fuerte en el mercado editorial, en la situación de la literatura argentina, en, tanto en los escritores como en las editoriales.
Donc ça, cela a provoqué aussi un énorme changement dans les maisons d'édition comme chez les auteurs.
Durante todos los años 90, en Argentina, como había un dólar barato, había la mayor parte del mercado editorial eran importaciones de libros españoles.
Donc dans les années 90, comme le dollar était bon marché, la plupart des publications étaient, se constituaient de publications d'importation.
Por lo tanto, la industria editorial argentina prácticamente estaba destruida.
Donc l'industrie éditoriale argentine était pratiquement détruite.
Pasaba también con los escritores que tenían poco espacio para publicar obras.
Et donc les écrivains avaient très peu d'espace pour pouvoir publier leurs œuvres.
Por el contrario, después de la crisis, ante bueno, la imposibilidad de seguir importando y comprando y consumiendo libros importados.
Donc après la crise, face à l'impossibilité de continuer à importer des livres et à les publier aussi, donc il y a eu un nouveau phénomène, la crise, il s'agit de la crise de 2001.
Y nacieron en, sobre todo concentradas en Buenos Aires, muchísimas editoriales nacionales independientes, más bien pequeñas, pero con criterios muy, muy bien fijados en cuanto a los catálogos que querían producir cada una.
En réponse à cette situation, ont surgi beaucoup de petites maisons d'édition à Buenos Aires, mais très consciencieuses et qui choisissaient avec grand soin leurs publications.
Y eso creo que alimentó muchísimo la literatura argentina, tanto en escritores jóvenes que empezamos a publicar en ese momento, como también en escritores de una generación anterior que no habían podido llegar a su público en su momento.
Cela a provoqué beaucoup d'ouverture chez les jeunes auteurs qui avons pu commencer à publier, mais aussi chez des auteurs déjà plus âgés qui ne pouvaient plus publier à ce moment-là.
Alors on va rentrer dans votre univers très particulier. Et on va rentrer à ce que vous appelez Berassa Chusset. Qu'est-ce que c'est Berassa Chusset? Où sommes-nous?
Berassa Chusset es un, bueno, el cruce que resume en el encuentro entre Berazategui, que es una ciudad de cercana a Quilmes, de esa zona de Buenos Aires, con Massachusetts.
Oui, donc c'est le croisement Berazategui, cette création de ville. C'est un croisement entre Berazategui, qui se trouve à côté de Quilmes, donc sa ville originelle, et Massachusetts.
Encuentro que se dan en todos los nombres que conforman la geografía de esa ciudad, y que creo que resumen también el cruce que se da entre un universo más realista de esa zona de la ciudad de Buenos Aires con el universo fantástico que lo va distorsionando también.
Donc cette rencontre dans cette façon de nommer les lieux.
Tous les lieux sont nommés
oui,
en étant un mélange voilà. De lieux argentins et de lieux étrangers.
C'est ça, donc tous les lieux répondent à ce croisement, comme tu viens de le dire. Donc c'est une façon de croiser l'univers réaliste, et donc la réalité du Grand Buenos Aires, donc la ville de Buenos Aires, et un univers fantastique.
La ville de Buenos Aires, c'est 14 millions d'habitants, c'est ça, quelque chose comme ça? À peu près. Donc c'est quelque chose de très très important. Par rapport à Paris, par exemple, c'est gigantesque.
C'est gigantesque. D'ailleurs, on l'appelle le Grand Buenos Aires.
Et donc, ce Berassa Chusset, il se trouve qu'on est dans une situation un peu particulière. D'abord, ce qu'il faut dire, peut-être, c'est qu'on est sur un territoire assez restreint, capable de passer de bidonvilles jusqu'à des villas absolument somptueuses. Et au milieu, il y a également, parce que ça va jouer un rôle très important, ces classes moyennes qui finalement sont celles qui ont peut-être encore plus souffert finalement que les autres de la fameuse crise.
Buenos Aires en general, sobre todo en esas zonas, está constituida de ese modo. Tenés al lado la zona de casas muy ricas y pegadas también tenés lo que llamamos allá una villa miseria.
Donc Buenos Aires s'organise de cette façon, c'est très courant, donc cohabitent les lieux très luxueux avec ce qu'on appelle las villas, qui sont pas des bidonvilles, mais des endroits très pauvres, presque des bidonvilles.
Et en particulier, c'est une zone, toute cette zone de Buenos Aires, non de la capitale, sino el Gran Buenos Aires, el conurbano, es una zona que también está muy marcada, muy estigmatizada en los medios.
Donc cette zone de Buenos Aires, donc pas Buenos Aires intramuros, mais le Grand Buenos Aires, c'est une zone qui aussi est très stigmatisée.
En el imaginario general hay siempre una sensación de miedo al ir a Buenos Aires, porque generalmente es, si bien es cierto que hay mucha violencia, hay inseguridad, hay problemas de drogas, de muchas cosas, también hay, creo que hay como un pánico general que exacerba mucho más todas esas realidades.
Donc dans l'imaginaire des gens, il y a vraiment cette peur qui est véhiculée de pouvoir sortir de Buenos Aires et d'aller vers le Grand Buenos Aires. Et donc cette stigmatisation amène à son paroxysme la peur et développe toutes ces craintes.
Alors c'est dans ce contexte qu'on rencontre Trash. Qui est Trash?
lo que me olvidé de decir de vos, me preguntabas por la clase media.
Donc, j'ai oublié de vous dire, vous me posiez la question sur la classe moyenne.
Es que en general estos barrios eran tradicionalmente los barrios donde vivía la clase media en Argentina.
Donc, traditionnellement, ces quartiers étaient les quartiers où vivait la classe moyenne de l'Argentine.
Y que entre las transformaciones creo que se fue pasando una situación más extrema ahora, sobre todo en ese momento donde la clase media estaba desapareciendo y había gente mucho más rica y gente mucho más pobre.
Et donc on est passé à une situation beaucoup plus extrême où les écarts entre les gens très pauvres et la classe très aisée s'est réellement creusé.
La clase media en ese momento estaba un poco más en desaparición, pero también algo, un poco de la efervescencia que tuvo en ese momento, un poco la revuelta social de Buenos Aires.
Donc la classe moyenne à ce moment-là était en voie de disparition, mais il a joué un grand rôle aussi tout ce climat d'émeute qu'il y avait à Buenos Aires à ce moment-là.
Es que también se produjo porque la crisis financiera por primera vez también afectó muy directamente a la clase media.
Cela s'est produit aussi parce que la crise financière a touché tout particulièrement de manière très directe la classe moyenne à ce moment-là.
Entonces, realmente el grueso de la gente salió a la calle a protestar y a pedir la renuncia del presidente y todo lo que siguió.
Donc directement la plupart des gens sont sortis réellement dans les rues pour protester. Et il y a eu ces émeutes où les gens réclamaient leur argent.
En cuanto a Trash, me interesaba justamente que se encontrara con estos personajes muy típicos de la clase media argentina.
En ce qui concerne Trash, ce qui m'intéressait, c'était que justement ce personnage rencontre ces personnages également très typiques, représentatifs de la classe moyenne argentine.
Parce qu'il va rencontrer quatre femmes qui en fait sont des enseignantes à la retraite, et ça va être le début de l'histoire. Mais il faut quand même dire qui est Trash, pour qu'on comprenne bien qu'on va entrer à partir de ce moment-là dans quelque chose qui dépasse la réalité, pour le coup.
Puedes explicar mejor quién es Trash para mostrar que a partir de ese momento vamos a entrar en otra cosa que ya no es la realidad.
Trash es un personaje tomado de una película de que es The Return of the Living Dead.
Donc Trash est un personnage que j'ai pris du film Le Retour des Morts Vivants.
Es una película del año 85 en la que un grupo de punks entra a un cementerio donde se produce una se despiertan los zombies de las tumbas y empiezan a atacar a todos.
Donc c'est un film de 1985 où justement dans un cimetière des zombies arrivent et commencent à attaquer tout le monde.
En ese momento es una en la película es una adolescente o más o menos y en la novela está tomada en un momento también casi en su vejez y está gorda y también tiene casi una crisis de identidad con su propia condición de zombie.
Donc dans le film, il s'agit de l'adolescence de Trash, alors que dans le roman, je l'aborde au moment où elle est vieille. Elle est grosse et elle se trouve en pleine crise identitaire en tant que zombie.
Y en realidad, el encuentro de esta zombie con estos personajes es lo que empieza a cambiar toda la vida de la ciudad, de estas cuatro maestras, y donde se empiezan a cruzar más un mundo más realista con toda una dimensión fantástica que lo va distorsionando.
Donc c'est à partir de cette rencontre entre le personnage Trash et les quatre maîtresses d'école à la retraite où la réalité de toute la ville commence à changer et où on commence à avoir des perspectives fantastiques.
Et on finit par se dire que finalement Trash, qui est zombie, punk et obèse, est quasiment le personnage le plus normal de l'histoire.
En la novela, sí, efectivamente pasa algo que es que la zombie es, como bien decís, la más normal y también en algún punto la más auténtica dentro de todo ese circo.
Donc en effet, on arrive à un moment où dans le roman, la zombie est le personnage le plus normal et le plus authentique dans tout cet environnement.
Porque un poco por esa... Aunque sea un poco redundante volver siempre a la crisis.
Bien que ce soit un peu redondant de revenir toujours à cette crise.
Era un momento donde realmente lo que uno veía era que toda la gente estaba un poco exacerbada, había pasiones demasiado exacerbadas.
Donc c'est un moment où vraiment les gens exprimaient des passions vraiment exacerbées.
Y había algo violento que podía encauzarse hacia cualquier lado, pedir.
Oui, et donc il y avait quelque chose de très violent qui pouvait déboucher, enfin partir dans n'importe quelle direction.
Mais à partir de son apparition, on a une galerie de personnages qu'on découvre au fur et à mesure. Donc on a ces quatre femmes qui vivent ensemble, on a un homme politique et ses enfants, on a une jeune handicapée aussi dont l'histoire est assez particulière. On a toute cette galerie de personnages qu'on rencontre au fur et à mesure et qui d'un seul coup vont devenir complètement fous.
Entonces, pero a partir de la aparición del personaje de Trash, aparecen otros personajes como las cuatro jubiladas, la paralítica, los hijos del político y la ciudad se vuelve loca.
La ciudad, sí, realmente también estaba loca. Por ejemplo.
Donc la ville était déjà folle.
Por ejemplo, en la novela hay unos hijos de gente poderosa de la ciudad.
Par exemple, dans le roman, il y a ces personnages qui sont les enfants des puissants de la ville.
Que salen con sus camionetas a golpear a gente por la calle, generalmente gente pobre, y filman esos ataques.
Donc, leur jeu, c'est de se réunir pour aller frapper en groupe les pauvres et les filmer. Et comme ce sont les enfants des notables, des puissants de la ville, ils sont à l'abri.
Y un poco tiempo después de la publicación, imagino que un año o un poco menos, hubo realmente casos como esos en una provincia en Argentina que se llama Chaco.
Oui, et ce qui s'est passé, c'est qu'à peu près après une année après la publication de mon roman, il y a eu des faits divers qui se sont passés dans une province de Buenos Aires qui s'appelle Chaco, où des fils à papa sont sortis pour tabasser et filmer et tuer des pauvres.
Il y a aussi des choses... Moi, j'ai été fasciné par les pingouins. Je ne sais pas si c'est... qui ont quand même un rôle assez particulier dans cette histoire. Donc, ils sont le symbole de la bonne conscience que veulent se donner, ou en tout cas faire paraître les politiques, ou en tout cas le fameux politique qui est présent dans le roman. Et donc, pour montrer son attachement écologique, si j'ai tout bien suivi, il a donc fait venir des pingouins qui sont exposés dans des gigantesques congélateurs, en fait.
Con los pingüinos y con esta con ese monumento medio absurdo que creaban y grotesco, lo que me interesaba era un poco que mostrar un tipo de política que muchas veces se propone sobre el modo posible de salir de ese escenario de crisis.
Donc avec ce monument des pingouins totalement absurdes et grotesques. Ce que je voulais montrer, c'est cette possibilité, ces propositions qui sont faites d'un point de vue politique pour sortir de situations de crise.
Por ejemplo, retomando algo de lo que estuvimos hablando en distintas charlas del festival, me queda muy presente algo que de una novela de Yosk en la que él habla bueno de la relación problemática de la isla de Cuba con Estados Unidos.
Oui, pour reprendre des discussions que nous avons eues dans d'autres rencontres durant ce festival, ça me fait penser à une nouvelle de Joss, donc l'auteur cubain qui a été invité, qui parle de la relation problématique entre Cuba et les États-Unis.
Que en realidad, salvando todas las diferencias entre Cuba y la Argentina, creo que toda Latinoamérica tiene el problema o ver cómo resolver la relación del país con ese país grande, con ese otro mercado preponderante.
Oui, donc en mettant de mise à part les différences bien sûr entre Cuba et l'Argentine, je pense que tous les pays d'Amérique latine sont touchés par comment pouvoir gérer ces différences entre les petits pays et les grands pays, puisque c'est l'expression qu'utilise Joss. Il était une fois un petit pays et un très grand pays, et dans les deux, il y a des démocraties.
Tanto en los 90 como con la crisis y después y hasta el día de hoy, también Argentina tiene que resolver ese modo de incorporarse al mundo, cómo se relaciona con los otros países. Y en el modo en el que se va contestando esa pregunta.
Oui, donc depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, l'Argentine aussi est face à cette problématique de comment elle va, par quel biais elle va se créer des relations avec les autres pays. Et comment elle va se positionner dans sa relation vis-à-vis des autres pays.
En la posición de quien gobierna esta ciudad, lo que se hace generalmente es, en principio, querer imitar lo que hacen países o ciudades de un primer mundo.
Donc, ce qui se passe en général, c'est que quand quelqu'un se retrouve dans la position ou d'une position de gouvernant, la première chose qu'il fait, c'est imiter les gouvernants de grands pays du premier monde.
Y ahí es creo donde se produce también lo grotesco de la novela, el querer aspirar a algo que no se es y que termina generando algo muy ridículo.
C'est là que se produit le grotesque qui se trouve dans le roman, c'est-à-dire de vouloir aspirer à quelque chose que l'on n'est pas et essayer de le reproduire.
En cómo se resuelve esa relación con el otro también pasa lo mismo a nivel de los personajes, que todos tienen en la cabeza un modelo de elegancia o de, 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 de buen vivir al que quieren aspirar y que pocas veces pueden alcanzar.
Au niveau des personnages, il se passe exactement la même chose qu'au niveau des pays. Et donc, ils ont des modèles, par exemple, d'élégance auxquels ils aspirent et qu'ils ne pourront jamais atteindre.
D'ailleurs, moi, j'ai été frappé par ça dans Berassachusetts. C'est l'omniprésence de la vulgarité. Juste une précision. Dans le roman, il y a un personnage qui est un vrai personnage qui s'appelle Lia Crusette, je crois. Je me suis amusé, moi, sur ma page Facebook, à mettre un clip de cette chanteuse pour voir comment allaient réagir les gens. J'ai été gentil, j'en ai choisi un des années 80. J'en ai vu des pires plus récents. Et ça m'a un peu surpris, pour tout vous dire.
Et que te dijeron?
Je crois qu'ils se sont demandé où ils étaient tombés. Pour une des institutrices, elle est quasiment un modèle, la personne à qui elle voudrait presque ressembler. Or, pour vous donner une idée, c'est une dame qui, comment dire, est particulièrement plantureuse et porte des tenues sur scène qui sont minimaliste, pour tout dire. C'est pour ça que je précise que j'ai mis une vidéo des années 80, parce que j'en ai trouvé des plus récentes. Donc elle approche quand même de la soixantaine, la dame, et elle a conservé les mêmes tenues. Et c'est assez effrayant, pour tout dire. Et musicalement parlant, c'est à peu près au même niveau que ce qu'on peut voir. Et on est vraiment dans un modèle culturel qui fait quand même carrément peur. C'est-à-dire qu'à la limite, on a presque envie d'aller suivre Trash pour qu'elle aille nous emmener dans un concert punk, en se disant, fuyons ça.
Que también Lia Crusette, creo que igual vive su música de una manera auténtica y ella está muy contenta con lo que es.
Donc, en fait, mais ce personnage, enfin cette chanteuse Lia Crusette, vit les choses de manière très authentique et elle est très heureuse avec sa façon de s'habiller, sa façon de vivre.
El problema es, bueno, hay uno de los personajes de estas maestras que es muy parecida a Lia Crusette en cuanto a sus actitudes o esa vulgaridad, pero que es justamente la que quiere presumir de elegancia o quiere aspirar a convertirse en parte de la clase poderosa y la clase rica de la ciudad.
Et justement, le personnage de cette maîtresse qui s'identifie dans la vulgarité de cette chanteuse, elle veut vraiment, c'est le topique de la personne qui veut aspirer à la classe qui détient le pouvoir et auquel elle ne pourra jamais accéder.
Dans le roman, il y a donc Trash qui est le détonateur, on va dire, bien malgré elle en plus, la pauvre, elle ne fait pas grand-chose pour ça. Mais on retrouve un peu plus loin, vers la fin, d'autres zombies qui commencent à faire leur apparition. Et on se rend compte que finalement, on est vraiment dans une fable. J'espère que le mot vous conviendra. Mais parce que ces zombies, en fait, ce sont les exclus de la société.
Los otros zombies, creo que a diferencia de Trash, remite a más estas películas del cine gore o de clásico de zombies. Los otros tienen que ver más con una imagen que está presente en la película, era Christianef.
Okay. En fait, ce personnage fait référence au personnage gore, le zombie classique, mais les autres personnages me rappellent davantage le personnage qui apparaît dans Christianef, 13 ans prostituée.
Que trata un poco el tema de los efectos de la droga en los años 70 en Berlín.
Qui aborde plutôt le thème des effets de la drogue dans les années 70.
y en muchas de las escenas que pasan en una discoteca, mientras todos están viendo, mientras están bailando, hay una sala donde se proyecta las películas de George Romero, y hay una identificación muy grande entre los zombies de la pantalla y la gente que está consumiendo heroína en los baños, en el metro.
Il y a une scène dans une discothèque avec un endroit où on projette les films de Romero. Et il y a une association très grande entre ce qu'on voit à l'écran, les zombies qu'on peut voir à l'écran, et les drogués zombies qui sont justement les personnes de la discothèque.
Y ese tipo de imagen del zombie, del drogadicto también como una imagen del zombie, está muy presente, pero creo que en ese momento de la escritura estaba todavía más fuerte, porque hay uno de los grandes problemas son los de Buenos Aires, son los efectos de, bueno, allá es el paco, del consumo de paco en la gente más joven.
Oui, donc ce problème, cette association entre le zombie et les drogués, c'était quelque chose qui a été très présent et très fort dans mon écriture parce que ce phénomène se produit justement à Buenos Aires avec une drogue qui s'associe ici au crack, qui s'appelle El Paco, mais qui est encore pire que le crack.
Que bueno, es también lo que produce el nivel de delincuencia y de violencia de chicos que están drogados, que no saben lo que hacen y bueno, y matan, no hacen lo que sea.
C'est aussi ce qui déclenche ce niveau de violence et de délinquance chez des jeunes qui n'ont pas du tout conscience de ce qu'ils font puisqu'ils sont complètement sous l'effet du paco.
Me parece que en ese sentido hay los zombies siempre, bueno, son los muertos que vuelven de esa propia de la propia sociedad en la que uno se posa.
Donc dans ce sens, les zombies, ce sont ceux qui reviennent de cette propre société dans laquelle ils ne peuvent pas évoluer.
Y que en ese sentido muchas veces sirven para retratar o tomar un tema un poco o traumático o algo que se resiste a ser internado en una sociedad.
Et donc dans ce sens, ils servent à faire le portrait des traumas, de ce qu'on ne peut pas expliquer dans ce genre de société.
Y que creo que por eso también a lo largo de la historia en el cine que en el que aparecen los zombies se pueden encontrar películas tan variables y que en cada país se reelaboran los problemas propios, las guerras que tuvieron, los traumas, los conflictos sociales a partir de la figura del zombie.
Et c'est pour ça que dans tout les genres, dans tout le cinéma où apparaissent des zombies, et quel que soit le pays où apparaissent ces zombies, on voit apparaître les problèmes sociaux qui ne peuvent pas être gérés.
Alors c'est vrai qu'on a l'air de parler assez gravement parce que le contexte qui sous-tend le roman est grave, mais on rit énormément pendant... Enfin, en tout cas, c'est mon cas, j'espère que ce sera le cas d'autres personnes, mais moi j'ai énormément ri. Parce que toutes les situations sont outrancières, grotesques, totalement absurdes par moments, avec des personnages qui sont tous plus débiles et méchants les uns que les autres. C'était une volonté justement que ça soit quand même, malgré... le drame que ça raconte, que justement ça soit drôle, et est-ce que c'est une manière aussi de dénoncer finalement l'absurdité dans laquelle s'est retrouvée l'Argentine après la crise?
Creo que siempre en la manera de escribir hay algo un poco, siempre el humor es un recurso que me parece que está presente en lo que escribo.
Dans ce que j'écris, il y a toujours ce recours à l'humour.
Très noir, hein, comme je précise.
Creo que sí, en esa novela en particular había creo que ante semejante situación de crisis o de un escenario que parece que no tiene ningún tipo de salida. Hay algo catastrófico, pero que a la vez es tan irremediable que bueno, solamente uno intenta pasarla bien, o hay algo un poco lúdico también en el momento del apocalipsis.
Je crois que dans cette forme de situation de crise où on ne peut pas envisager quelque sortie que ce soit, finalement on prend plaisir à ce grotesque et cela devient quelque chose de ludique, quelque chose de ludique auquel on prend plaisir.
Alors vous dites que, on va passer à côté court maintenant, vous dites qu'il y a le recours à l'humour. Alors oui, je suis d'accord avec vous, mais j'ai trouvé l'univers de côté court beaucoup plus sombre encore. Alors côté court, c'est un petit peu différent parce que ce sont 5 nouvelles, on va dire ça comme ça, en tout cas regroupées dans un recueil, qui ont tous le point commun de se passer, on va dire, dans un lotissement, dans ce qu'on pourrait peut-être comparer chez nous à une ville nouvelle, par exemple, un peu, une espèce de quartier comme ça, résidentiel, assez étrange. Et il se trouve que toutes ces maisons ont des cours où il se passe des choses quand même assez particulières, il faut bien le dire.
Entonces, en Medianera también está este humor y bueno, se trata de 5 relatos cortos que tienen puntos comunes y que se desarrollan en un barrio. Acá lo comparó como una ciudad nueva, pero no es exactamente eso. Trata de definir el tipo de barrio que es.
Comment vous est venue cette idée, justement, de nous emmener dans les cours de ces maisons et surtout d'y faire se passer des choses aussi étranges?
La idea, en realidad, bueno, en cuanto al lugar, no es tanto un lugar residencial en sí como lo que solía ser quizás un típico barrio de clase media antes en Buenos Aires.
Oui, donc en ce qui concerne le lieu, il ne s'agit pas de ce genre de ville nouvelle, mais c'était, enfin, c'était pas un lieu très résidentiel, mais ça correspondait vraiment au lieu d'habitation des classes moyennes. Et donc, pour vous dire un petit peu, c'est des maisons avec des cours qui se touchent par ce mur qui, justement, est Medianera, qui est mitoyen. Et donc, les uns peuvent voir chez les autres. Et c'est ce contact qui se fait là. Mais ce n'est pas du tout l'esprit de la ville nouvelle comme on peut la voir, nous, en France.
Y hay, al contrario de lo que suele ser la vida en el centro de Buenos Aires, que hay mucho menos contacto entre la gente. En estos barrios, al tener esos patios que se comunican, hay una vida que siempre es mucho más, está mucho más integrada. Uno siempre sabe quién vive al lado, hay una comunicación constante.
Donc, contrairement à Buenos Aires, et au centre de Buenos Aires en particulier, où finalement il n'y a pas tellement de contact, on ne sait pas ce qui se passe chez le voisin, dans ces villes, tout le monde connaît tout le monde sait ce qui se passe chez tout le monde. Et finalement, il y a plus une vie de groupe.
Incluso hay gente que vive ahí, quizás de varias generaciones, y entonces ya tus abuelos eran amigos de los abuelos de los vecinos.
Et il y a même des gens, c'est vraiment ce qu'on appelle le barrio, le quartier, donc il y a même des gens qui vivent là depuis plusieurs générations. Donc déjà, les grands-parents étaient amis des grands-parents de la cour d'à côté.
Creo que la idea del preso en cada barrio, lo que pasa en la novela es que son casas, cada historia, cada capítulo se basa en una casa en la que reciben un preso en su domicilio.
Donc, en fait, l'idée du prisonnier, parce qu'il s'agit d'histoires où dans chaque maison, les habitants reçoivent pour locataire un prisonnier.
Enfin, locataire, ils sont quand même dans une cage. Hein.
Un prisonnier, oui, en cage. Mais,
oui, non, mais parce que c'est important, ils sont quand même dans des situations qui sont extrêmement précaires, les prisonniers en question.
Ouais, mais en fait, comme il ne l'avait pas encore dit, je n'ai pas encore traduit, c'est pour ça. Et en échange d'argent également.
Reciben plata a cambio de tener un preso en una habitación acondicionada en su casa.
En fait, ils reçoivent en échange de cet accueil du prisonnier, ils reçoivent une somme d'argent. Et évidemment, ce prisonnier se trouve dans des conditions spéciales, c'est-à-dire qu'est aménagée une cage, une prison, et ils deviennent le geôlier de ce prisonnier.
Et al mismo tiempo, hay una empresa de teléfonos que es la que reemplaza el lugar del Estado en ese barrio, es la que controla y regula todas las relaciones de esa ciudad.
Et en même temps, il y a une entreprise de télécommunication, Phonemark, pour dire le nom. Et donc, Phonemark, cette entreprise, remplace l'État et c'est elle qui régule absolument tout dans ses habitations et dans ce quartier.
Y obliga a cada persona que vive ahí a consumir determinado monto telefónico, de crédito telefónico para poder seguir viviendo en ese lugar.
Donc, et en fait, Phonemark, cette compagnie de télécommunication, oblige tous les habitants à consommer une certaine somme de crédit, sans quoi leur maison disparaît.
Y en ese sentido, el punto de partida, así como en Berazachusetts había sido el encuentro del zombie con estas mujeres, en Medianera, en Côtecourt, el disparador era justamente el encuentro entre cada familia y un preso y de qué diferentes maneras se daba esta relación en cada una de esas casas.
Y donc, ici. Le point de départ dans Côtecourt, Medianera en espagnol, c'est la rencontre entre la famille et ce prisonnier et comment ils vont développer et construire leurs relations, chacune de manière différente.
Alors justement, ces relations, elles sont quand même assez particulières. Il leur arrive des trucs un peu étranges quand même à vos prisonniers. Vous ne les ménagez pas, mais vous ne ménagez pas non plus les familles en elles-mêmes qui sont là. Pour vous donner une idée, dans la première nouvelle, on a une histoire, oui, c'est vraiment une histoire d'amour. Normalement, enfin en tout cas, ça démarre comme ça, entre justement la geôlière et le prisonnier, sauf qu'évidemment ça va bien vite partir en vrille et que ça va finir par dégénérer. On a une autre famille, une autre maison où l'habitant principal est une espèce de médecin chercheur bizarre qui a pour spécialité de réduire les têtes. Et donc, il fabrique des poupées avec les têtes des gens morts qu'on lui apporte pour qu'il réduit, pour qu'ils deviennent les têtes des poupées. Voilà. Donc, il se passe quand même des trucs bizarres dans ce quartier. Se pasan cosas muy raras en ese
barrio. Si bien hay un en cuanto a la estructura general, en cuanto a lo que genera esta empresa de teléfonos que regula el Estado. Hay algo que acerca el escenario a lo que puede ser una distopía o algo, una novela anticipación.
Alors, d'un point de vue, si bien il y a, bien qu'il y ait d'un côté la structure qui est régulée par l'entreprise qui prend la place de l'État, il y a aussi une dystopie.
Lo que me interesaba era que
il y a une dystopie qui mène à un roman d'anticipation.
Era que dentro, que por encima de ese escenario, la historia fuera otra, se mezclara con otros géneros.
Donc il s'agissait que par-dessus cette construction, en fait, que l'histoire se mélange à d'autres genres.
Como decías bien, la primera historia es, si bien una forma un poco extrema, pero tiene mucho que ver con un melodrama que también aparece en las otras.
Donc, comme tu le disais dans la première histoire, donc cette histoire d'amour, même si elle est extrême, ça a à voir beaucoup avec un mélodrame, comme il y en aura dans les autres histoires.
Le mari, la femme et l'amant, ou en tout cas, en l'occurrence, la maîtresse.
oui, le mari, la femme, oui, el marido, la mujer. Pero en ese caso es la mujer la que vuelve. Et dans ce cas, c'est la femme du prisonnier qui revient.
Oui, exactement.
Oui,
hay otras historias que tienen. Hay una que quizás tiene que ver más, me parece, con la definición del fantástico más clásica que daba Todorov sobre la literatura fantástica.
Il y a une autre histoire qui a plus à voir avec le genre fantastique que selon la définition de Todorov.
Cuando habla de la literatura fantástica como el momento de vacilación en la lectura.
Donc quand il en parle, il parle de la naissance du fantastique au moment de l'hésitation dans la lecture.
El momento de vacilación antes de uno decidirse de si lo que lee que parece sobrenatural será explicado de un modo racional o si se aceptará en cambio ese hecho como sobrenatural.
Oui, donc de ce moment d'hésitation où on va choisir entre l'explication de ce qui est en train de se produire comme quelque chose de surnaturel ou alors comme une logique.
Esa historia tiene que ver más que nada con la única casa en la que la familia no quiere aceptar un preso para subsistir.
Et donc dans cette histoire là, on est dans la seule famille qui ne veut pas avoir de prisonniers chez elle pour subsister.
Pero por algún motivo hay un patio en esa casa donde aparece como una especie de patio de las maravillas y hay fenómenos de apariciones y transmutaciones que bueno, nunca se sabe muy bien a qué obedecen.
Mais por una razón inconnue, il y a dans cette cour des effets merveilleux qui se passent, une espèce de cour de miracles et où il y a une essence du merveilleux.
Y creo que quizás después hay un último cuento que trabaja más con un ambiente de cuento de terror un poco clásico.
Et enfin, un dernier conte où je travaille davantage avec les mécanismes du conte de terreur.
Si je vous dis que ça m'a fait penser à une vieille série, enfin qui reste quand même assez assez connue, qui est La Quatrième Dimension. Ah, d'accord. Parce que c'est... Où on a un point de départ qui finalement est quelque chose, une histoire à peu près normale, on va dire. Voilà. Et à un moment, on rentre dans un univers où rien n'est plus normal finalement. Et justement, moi, je me souviens d'un épisode. Je crois que c'était avec Telly Savalas, je crois, où c'était une poupée vivante justement. Et je trouve qu'il y a ce côté-là, c'est-à-dire qu'il y a une normalité presque effrayante au début des nouvelles à chaque fois. Mais où on se rend compte à quelques petits détails que quand même tout n'est pas tout à fait normal. Et puis à un moment, tout dérape.
Creo que sí, a diferencia de Massachusetts, donde hay de por sí una atmósfera fantástica todo el tiempo, en cuanto a la descripción o al mundo en sí, Côte-Cour es como bien decís algo mucho más realista, ¿no?
Donc à la différence de Massachusetts où on est finalement tout le temps dans le fantastique, dans côté court, dans Medianera. Donc au contraire du fantastique, là dans Medianera, il y a quelque chose de vraiment très réaliste.
El extrañamiento quizás en esta novela está dado en cuán extrañas se pueden tornar las relaciones entre las personas.
Donc l'étrangeté ici réside sur à quel point les relations entre les gens peuvent devenir étranges.
Por ejemplo, en esto, en el tener a un preso en la casa, en la que uno un poco se vuelve casi el dueño de ese preso, que si quiere no lo alimenta, si quiere puede hacer lo que se le antoja.
Pardon. Par exemple, le fait d'avoir un prisonnier chez soi et de devenir le maître de ce prisonnier, parce qu'en fait, on peut décider de ne plus l'alimenter et on a tout droit, tout pouvoir, on est tout puissant face à lui.
Hay algo invisible del Estado, del control, del castigo. Lo fantástico acá creo que pasa por cómo hay un nuevo modo de relacionarse entre la gente, de algo completamente desregularizado en esas relaciones sociales. No hay ningún pacto social entre ellos.
Donc il y a cet état, ce contrôle invisible de l'État et ce châtiment. Et finalement, ici, le fantastique réside dans la manière que vont trouver les gens pour créer des relations entre eux. Et justement, on voit que ce mode de créer du lien est totalement défait, désarticulé.
Dans la deuxième nouvelle, il se trouve que clandestinement, la famille, le couple qui héberge donc les prisonniers, a décidé, pour gagner de l'argent discrètement et surtout ne pas attirer l'attention de Fonmark, d'organiser des combats entre les prisonniers, mais surtout entre les prisonniers et des animaux de combat. C'est étonnant parce qu'il y a deux nouvelles où finalement on parle de spectacle. Il y en a une où ce spectacle, donc ce sont ces combats, et c'est absolument abominable. Et puis il y a l'avant-dernière, où au contraire, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire ce merveilleux qui se déroule et qui attire les foules parce que tout le monde veut voir le phénomène. Le spectacle, justement, il y a un côté un peu Panem et Circenses dans Côté Court.
Tanto, yo creo que esos dos espectáculos que tanto el de luchas con animales como en el modo en el que se puede explotar ese mundo de ese patio de las maravillas tienen que ver con algo que mueve a casi todos los personajes en el libro y que es el intento siempre de buscar el modo de quebrar la ley.
Donc, dans ces deux spectacles, donc dans cette lutte des prisonniers contre des animaux qui sont organisés dans cette cour de miracles, et il y a finalement toujours un moyen de lutter contre la loi, de contourner la loi.
Todos los personajes, toda la gente que aparece en este lugar vive un poco de manera desesperada y van buscando un modo de subsistencia. Y quizás sin ninguna moral, buscando la ventaja propia, el modo de obtener una ventaja.
Donc tous les personnages sont désespérés et ils cherchent aussi de manière désespérée un mode de subsistance et ils le font vraiment de manière très individuelle et individualiste.
Por un modo, creo que quizás son dos aspectos bastante argentinos, ese intento de quebrantar la ley, de estar siempre un paso adelante de la ley, y por el otro lado el intento de la inventiva de convertir cualquier cosa en espectáculo como modo de subsistencia para afrontar la peor crisis o lo que sea.
Je pense que finalement ces deux aspects sont très argentins. D'un côté, de pouvoir contourner la loi et de l'autre côté, de transformer toute condition tragique en spectacle pour survivre dans cette crise.
Alors malheureusement, on va interrompre cet entretien parce qu'il va y avoir la remise des prix dans quelques instants, donc on va laisser la place. Voilà, nous avons cette chance énorme vraiment de découvrir d'abord un excellent écrivain, avec Leandro Avalos Blacha et surtout un univers très particulier, très dérangeant aussi, il faut quand même le dire, mais aussi très drôle. C'est-à-dire que il y a des moments, moi je vais vous dire que j'avais presque honte de rire de certaines choses parce que on se dit mais je suis en train de rire de choses totalement abominables. Mais en même temps, voilà, c'est plus fort que nous. Il y a vraiment un univers extrêmement noir, extrêmement désespéré. On sait qu'on va inexorablement vers quelque chose de pire que ce qu'on avait au départ, qui n'était déjà pas très forcément très très rose. Et on y va, on y avance. Et finalement, voilà, on découvre cet univers. Moi, j'ai lu les deux livres avec énormément de plaisir. J'espère que Asphalt aura la bonne idée ou d'autres maisons d'édition de continuer à publier vos écrits et de nous permettre de continuer à les découvrir. Parce que... je pense qu'on tient là un écrivain qui, à mon avis, transcende les genres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter simplement à l'aspect fantastique. Mais je crois que vous êtes un écrivain, simplement un écrivain. Et merci beaucoup.
Non, Wow. Gracias a vos y gracias a todos por acercarse. Un gusto estar.
Merci à tout le monde. Merci d'être venu.